Chapitre 31. Mademoiselle Dunross. Exclusivement occupée à veiller sur les derniers jours de la vie de ma mère, je trouvais, dans l'accomplissement de ce devoir sacré, ma seule consolation à la perte de mon dernier espoir d'épouser Madame Van Brandt. Peu à peu, ma mère ressentit l'influence revivifiante d'une vie tranquille et d'un air tempéré. L'amélioration de sa santé ne pouvait être, je le savais trop bien, que momentanée, et pourtant c'était un soulagement pour moi que la voir affranchie de toute souffrance et innocemment heureuse de la présence de son fils. À part les heures du jour et de la nuit consacrées à son repos, je ne la quittais jamais. Aujourd'hui encore, je me rappelle avec un attendrissement qui manque à mes autres souvenirs les livres que je lui lisais, le coin ensoleillé du rivage où je m'asseyais avec elle, les jeux de cartes auxquels nous jouions ensemble, le petit bavardage insignifiant qui l'amusait lorsqu'elle n'était pas assez forte pour se permettre d'autres distractions. Voilà mes reliques impérissables, voilà les actes de ma vie que je préférerais me rappeler lorsque les ombres envahissantes de la mort m'environneront. Lorsque j'étais seule, mes pensées, occupées presque exclusivement des personnages et des événements du passé, se reportaient souvent vers Shetland et vers Mlle Dunross. Le doute qui me hantait, à l'égard de ce que m'avait réellement caché le voile noir, n'était plus accompagné d'un sentiment d'horreur lorsqu'il me revenait à l'esprit. Plus mes derniers souvenirs de Mlle Dunross s'associaient vivement à l'idée d'une affliction physique indicible, et plus la noble nature de la femme paraissait s'élever dans mon estime. Pour la première fois depuis que j'avais quitté Shetland, la tentation me vint alors d'enfreindre l'injonction que m'avait intimée son père à mon départ. Lorsque je songeais de nouveau au baiser dérobé au milieu de la nuit, lorsque je me rappelais l'apparition de la main blanche et frêle, m'envoyant un dernier adieu à travers les épais rideaux, et lorsqu'à ces souvenirs se mêla celui plus récent de ce que ma mère avait soupçonné et de ce que Madame Van Brandt avait vu dans son rêve, le désir d'assurer Mademoiselle Dunross qu'elle occupait toujours une place à part dans ma mémoire et dans mon cœur fut trop puissant pour pouvoir y résister. Je m'étais engagé d'honneur à ne pas retourner à Shetland et à ne pas écrire. Comment correspondre secrètement avec Mademoiselle Dunross d'une autre façon fut pour mon esprit une question constante à mesure que les jours s'écoulaient. Tout ce qu'il me fallait, c'était une indication pour m'éclairer à cet égard, et l'ironie des circonstances voulut que ce fût ma mère qui me la donna. Nous causions encore, de temps à autre, de Madame Van Brandt. En m'épiant, dans les occasions où nous nous trouvions en société avec nos connaissances de Torquay, ma mère s'aperçut clairement qu'aucune autre femme, quelque attrayante qu'elle pût être, ne pouvait prendre dans mon cœur la place de celle que j'avais perdue. Ne voyant qu'une perspective de bonheur pour moi, elle se refusa à abandonner la pensée de mon mariage avec Madame Van Brandt. Quand une femme a avoué à un homme qu'elle l'aime, avait l'habitude de dire ma mère, c'est la faute de cet homme s'il ne l'épouse pas en dépit de tous les obstacles. En soutenant cette opinion de diverses manières, elle me la soumit un jour en ces termes. Il existe en mes comptes, Georges, à mon bonheur de me trouver ici avec vous. Je suis un obstacle à vos relations avec Madame Van Brandt. Vous oubliez, dis-je, qu'elle a quitté l'Angleterre sans me dire où je pourrais la trouver. Si vous étiez débarrassé de votre mère, mon cher, vous pourriez facilement la trouver. Même dans l'état des choses, vous pourriez sûrement lui écrire. Ne vous abusez pas sur ma pensée, Georges. Si j'avais le moindre espoir que vous l'oubliassiez, si je vous voyais seulement modérément attiré par l'une ou l'autre des charmantes femmes que nous connaissons ici, je vous dirais « Ne parlons plus jamais de Madame Van Brandt et n'y pensons plus ». Mais, mon cher, votre cœur est fermé à toutes les autres femmes. Soyez donc heureux à votre façon et que je puisse voir votre bonheur avant de mourir. Le misérable auquel cette pauvre créature sacrifie sa vie la maltraitera ou l'abandonnera tôt ou tard et il lui faudra alors recourir à vous. Ne lui laissez pas croire que vous êtes résigné à sa perte. Plus vous braverez résolument ses scrupules, plus elle vous aimera et vous admirera en secret. Les femmes sont ainsi faites. adressez-lui une lettre et joignez-y un petit cadeau. Vous parliez de me conduire à l'atelier du jeune artiste d'ici qui vous a remis sa carte l'autre jour. On dit qu'il peint d'admirables miniatures. Pourquoi n'enverriez-vous pas votre portrait à Madame Van Brandt ? Voilà l'idée que j'avais vainement cherchée. Absolument superflu, comme mode de plaider ma cause auprès de Madame Van Brandt, le portrait m'offrait le meilleur moyen de communiquer avec Mlle Dunross sans violer absolument l'engagement que j'avais pris envers son père. De cette manière, sans lui écrire un mot, sans même lui adresser aucun message, je pourrais lui dire avec quelle reconnaissance je me la rappelais. Je pourrais évoquer tendrement en elle mon souvenir dans les moments les plus cruels de sa triste et solitaire existence. Je me rendis secrètement, le même jour, chez l'artiste, et les séances continuèrent après, pendant les heures de repos de ma mère dans sa chambre, jusqu'à ce que le portrait fût terminé. Je le fis encadrer dans un médaillon d'or uni, attaché à une chaîne, et j'adressai d'abord mon cadeau à la seule personne en qui je pouvais me fier pour le faire parvenir à sa destination. C'était le vieil ami, appelé Sir James dans ce récit, et qui m'avait emmené avec lui à Shetland sur le yacht de l'État. Je n'avais aucune raison, en lui adressant les explications nécessaires, de m'imposer aucune réserve avec Sir James. Dans notre voyage de retour de Shetland, nous avions plus d'une fois causé confidentiellement de Mlle Dunross. Sir James avait appris sa triste histoire du médecin de Lerwick, qui était un de ses camarades de collège. En le priant de confier mon cadeau à ce gentleman, je n'hésitais pas à lui avouer le doute qui me tourmentait relativement au mystère du voile noir. Il était nécessairement impossible de prévoir si le docteur serait capable de résoudre ce doute. Je ne pus donc prier Sir James de lui poser discrètement la question en lui demandant les informations habituelles sur la santé de Mlle Dunross. À cette époque de lente communication, il me fallait attendre, non des journées mais des semaines, avant de pouvoir espérer recevoir la réponse de Sir James. Sa lettre ne me parvint qu'après un délai inhabituellement long, et pour ce motif, ou pour tout autre que je ne puis deviner, je pressentis si vivement de mauvaises nouvelles que je m'abstins d'en rompre le cachet en présence de ma mère. J'attendis que je fusse retiré dans ma chambre pour ouvrir la lettre. Mes pressentiments ne m'avaient pas trompé. La réponse de Sir James ne contenait que ces mots. Les lignes que je vous adresse ci-jointes parleront d'elles-mêmes sans mon secours. Je ne puis la plaindre. Je me sens cordialement affligé pour vous. La lettre ainsi désignée était adressée à Sir James par le médecin de Lerwick. Je la copie ici sans commentaire. Le temps orageux a retardé le navire au moyen duquel nous communiquons avec le continent. Je n'ai reçu votre lettre qu'aujourd'hui. En même temps, m'est arrivée une petite boîte renfermant un médaillon et une chaîne en or, cadeau que vous me priez de faire parvenir en secret à Mlle Dunross de la part d'un de vos amis dont il ne vous est pas permis de me faire connaître le nom. En me transmettant ces instructions, vous m'avez innocemment placé dans une position extrêmement difficile. La pauvre dame à laquelle est destiné ce cadeau touche à la fin de sa vie de souffrances si compliquées et si terribles que la mort, pour elle, arrive littéralement comme une miséricorde et une délivrance. Dans ces tristes circonstances, je ne crois pas être à blâmer si j'hésite à lui remettre en secret ce médaillon, sans savoir à quelle particularité est associé ce souvenir, ni à quelle émotion sérieuse il ne pourrait point donner lieu. Dans le doute, je me suis permis d'ouvrir le médaillon et mon hésitation s'en est naturellement accrue. J'ignore absolument quel souvenir ma malheureuse malade peut attacher à ce portrait. J'ignore s'il lui sera agréable ou pénible de le recevoir à ses derniers moments sur la terre. Je ne puis que me résoudre à l'emporter avec moi lorsque j'irai la voir demain et à laisser aux circonstances à décider si je risquerai ou non de le lui remettre. Le courrier pour le Sud ne part que dans 3 jours. Je puis donc laisser ma lettre ouverte pour vous faire connaître le résultat de ma visite. Je l'ai vu et je viens de rentrer chez moi. Mon affliction est grande, mais je ferai de mon mieux pour vous écrire intelligemment et complètement ce qui est arrivé. Lorsque je l'ai vu ce matin pour la première fois, ses forces affaiblies venaient de se rallier. La garde me prévint qu'elle avait dormi pendant les premières heures de la journée. Auparavant, elle avait eu quelques symptômes de fièvre, accompagnés d'un léger délire. Les paroles qui lui étaient échappées dans cet état paraissaient se rapporter uniquement à un individu absent qu'elle appelait Georges. Sa seule préoccupation, me dit-on, était de revoir Georges avant de mourir. En entendant cela, je fus frappé de la possibilité que le portrait du médaillon fût celui de l'individu absent. Je renvoyai la garde de la chambre et je pris la main de Mlle Dunrose dans la mienne. Me fiant en partie à la confiance que je lui savais en moi comme en un vieil ami et conseiller, je lui rappelai les paroles qui lui étaient échappées pendant la fièvre et j'ajoutai « Vous savez que vos secrets sont en sûreté avec moi. Dites-moi si vous vous attendez à recevoir quelques petits souvenirs de Georges. » C'était un risque à courir. Le voile noir qu'elle porte toujours lui couvrait le visage. Je n'avais, pour m'avertir de l'effet que je produisais sur elle, que le changement de température ou les mouvements partiels de sa main placés dans la mienne sous la couverture de soie du lit. Elle ne répondit rien d'abord. Sa main passa subitement du froid au chaud et pressa vivement la mienne. Sa respiration devint oppressée et elle ne put parler qu'avec difficulté. Elle ne me répondit pas, elle m'interrogea seulement. « Est-il ici ?» demanda-t-elle. Je répondis, « Il n'y a que moi ici. » « Y a-t-il une lettre ?» Je répondis, « Non. » Elle garda un moment le silence. Sa main redevint froide. La pression de ses doigts se relâcha. Elle reprit la parole. « Dépêchez-vous, docteur. Quoi que ce soit, donnez-le-moi avant que je meure. » Je risquai l'expérience. J'ouvris le médaillon et je le lui remis dans la main. Autant que je pus le voir, elle s'abstint d'abord de le regarder. Elle me dit « Tournez-moi dans le lit, la face contre le mur. » J'obéis. Le dos tourné vers moi, elle leva son voile et alors, je suppose, elle regarda le portrait. Un long cri étouffé, non de chagrin ou de douleur, mais de bonheur et de joie, lui échappa. Je l'entendis embrasser le portrait. Quelque accoutumé que je sois dans ma profession, à des spectacles et à des cris pitoyables, je ne me rappelle pas avoir jamais perdu mon sang-froid comme je le fis en ce moment. Je fus obligé de m'approcher de la fenêtre. Une minute à peine s'était écoulée que j'étais de retour auprès du lit. Elle avait rabattu son voile sur sa figure. Sa voix s'était affaiblie et je ne pus entendre ce qu'elle disait qu'en me penchant vers elle et en plaçant l'oreille près de ses lèvres. « Mettez-le autour de mon cou, » murmura-t-elle. Je fermai la chaîne du médaillon autour de son cou. Elle essaya de lever la main jusqu'à lui, mais la force lui manqua. « Aidez-moi à le cacher, » dit-elle. Je lui guidai la main. Elle cacha le médaillon sur son sein, sous le peignoir blanc qu'elle portait ce jour-là. L'oppression de sa respiration augmenta. Je la soulevai sur l'oreiller. L'oreiller n'était pas assez haut. Je lui posai la tête sur mon épaule et j'écartai en partie son voile. Elle éprouva un instant de soulagement et reprit la parole. « Promettez-moi, dit-elle, qu'aucune main étrangère ne me touchera. Promettez-moi de m'ensevelir tel que je suis maintenant. » Je le lui promis. Sa faible respiration se précipita. Elle put à peine articuler les paroles suivantes. « Recouvrez-moi le visage. » J'abaissai son voile sur sa figure. Elle resta silencieuse pendant quelques instants. Tout à coup, le bruit de sa respiration pénible cessa. Elle tressaillit et leva la tête de dessus mon épaule. « Souffrez-vous ? » lui demandai-je. « Je suis dans le ciel, » répondit-elle. Sa tête retomba sur ma poitrine pendant qu'elle parlait. Son dernier souffle s'était enfui dans ce dernier éclat de joie. L'instant de son bonheur suprême et celui de sa mort n'en avait fait qu'un. La miséricorde de Dieu s'était enfin étendue sur elle. Je reviens à ma lettre avant le départ du courrier. J'ai pris les mesures nécessaires pour l'accomplissement de ma promesse. Mlle Dunrose sera enterrée avec le médaillon caché sur son sein et le voile noir sur son visage. Jamais plus noble créature n'a respiré. Dites à l'étranger qui lui a envoyé son portrait que ses derniers instants ont été heureux grâce à son souvenir exprimé par son cadeau. Je remarque dans votre lettre un passage auquel je n'ai pas encore répondu. Vous me demandez s'il existait, pour qu'elle cachât son visage sous un voile, une raison plus sérieuse que celle qu'elle avait coutume de donner aux personnes de son entourage. Il est vrai qu'elle souffrait d'une sensibilité morbide à l'action de la lumière. Il est vrai également que ce n'était pas là le seul, le pire résultat de sa maladie. Elle avait, pour tenir caché son visage, une autre raison, connue seulement de deux personnes, du médecin qui habite le village près de la maison de son père et de moi. Nous avons, tous les deux, fait serment de ne jamais divulguer à aucune créature vivante ce que nos yeux seuls ont vu. Nous avons caché notre terrible secret, même à son père, et nous l'emporterons avec nous dans la tombe. Je n'ai rien de plus à dire sur ce triste sujet, à la personne au nom de laquelle vous m'avez écrit. Lorsqu'il pensera maintenant à Mademoiselle Dunross, qu'il se la représente dans la beauté qu'aucune affliction physique ne peut profaner, dans la beauté d'une âme affranchie et éternellement heureuse de sa réunion avec les anges de Dieu. Je peux ajouter, avant de fermer ma lettre, que le pauvre vieux père ne restera pas dans la triste solitude de la maison du lac. Il passera le reste de ses jours sous mon toit, avec ma brave femme pour prendre soin de lui et mes enfants pour lui rappeler le plus brillant côté de la vie. » Ainsi se terminait la lettre. Je la serrai et je sortis. La solitude de ma chambre me prédisait insupportablement l'isolement prochain de mon existence. Mes intérêts dans ce monde affairé se trouvaient maintenant circonscrits à un seul objet, veiller sur la santé chancelante de ma mère. Des deux femmes, dont les cœurs avaient jadis battu d'une tendre sympathie avec le mien, l'une reposait dans sa tombe et l'autre était perdue pour moi sur une terre étrangère. Je rencontrai sur la plage ma mère, qui se promenait lentement dans sa petite voiture à poney, aux doux rayons du soleil d'hiver. Je renvoyai son conducteur et je marchai à côté de la voiture, en tenant les rênes à la main. Nous causâmes de choses indifférentes. Je fermai les yeux devant le triste avenir qui m'attendait, et j'essayai dans les intervalles de mes serrements de cœur d'accepter avec résignation l'heure présente.